fuck is this shit that y'all are listening to nowadays on the radio, man?
Radio Campus Orléans.
La liberté n'a de sens que si elle signifie le droit de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre.
Sagamore, la radio disait...
La guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenché au palais de la
Syrie. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Elle provoque une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Bonsoir et bienvenue à vous sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. C'est À Bâton Rompu qui démarre.
À Bâton Rompu avec Hassan Kerim.
Tous les deuxièmes mardis du mois, vous le savez, j'ai le plaisir d'accueillir en studio les amis du monde diplomatique d'Orléans pour décrypter l'édition en cours du mensuel. Bonsoir Pierre, je ne le vois pas. Alors attends, Pierre, est-ce qu'il est là Pierre? Oui, mais pourquoi son... Alors attendez, vas-y Pierre.
Bonsoir, ça y est.
Ça y est, tu t'entends?
Ouais, ouais.
Parfait.
Elle tourne.
Bonsoir et bienvenue à toi dans l'édition d'avril.
Je vais présenter un article, deux articles qui se font écho, j'ai l'impression. Un qui va être la suite d'un article du mois de mars que j'ai évoqué la dernière fois. Là, je vais insister un petit peu plus sur les lois ségrégationnistes, les Jim Crow laws.
Les Jim Crow.
Voilà. Donc, je vais présenter ça. Et puis, un peu pour nous soulager après, parce que vous allez voir, c'est quand même terrible. Je vais vous proposer un article sur l'empathie.
Oui, parfait. Parfait.
Voilà. Victor, l'antidote.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Tu as choisi ton article qui porte sur l'extrême droite au Portugal après les élections, une percée de l'extrême droite.
C'est ça, oui, la percée de l'extrême droite le 10 mars 2024, puisqu'elle a réuni près de 18% des suffrages, ce qui fait quand même un peu froid dans le dos.
Dans ce pays qui a connu le salazarisme.
La dictature, oui.
Wow,
ouais.
Énorme. Henri, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, mais oui, mais Henri, est-ce que ah, vas-y Henri.
Oui.
Non. Mais si, c'est bon là. C'est ça. C'est bon, ça a passé.
Bonsoir Henri. Henri, tu as choisi un article en plus de la présentation du diplôme.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Oui.
Mais alors, en tout cas,
je n'ai pas eu de problème pour faire un choix puisqu'il est tellement riche.
Est tellement riche, mais vraiment. Non, mais clairement. Hein.
Justement, tu as eu des problèmes pour faire un choix parce qu'il était tellement riche.
C'est vrai. Les choix peuvent s'entrechoquer.
Le dossier de l'édition d'avril porte sur l'Inde. Il y a un événement qui va se passer. Et il y a d'autres articles, comme tu dis, riches dans ce diplôme.
Oui, Oui. Dans le diplôme, on nous parle un peu des affaires franco-françaises, mais aussi de l'international, bien sûr. C'est dans son ADN, comme souvent on le dit, dans cette expression désormais bien galvaudée. Il y a des ADN partout, mais après, il y a des gens qui changent d'ADN, ils n'ont pas compris que c'était dans les convictions. Mais bon, bref, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui, donc dans ce diplôme, il est question de nos petites affaires, si j'ose dire, franco-françaises. Déjà en page 3 du Monde diplomatique, les déshumanisateurs d'un article de Simon Aramburu qui dit que ben, on en vient à dématérialiser, on dématérialise tout, y compris les services publics. De temps en temps, on nous saupoudre, dans son article, cet auteur nous dit qu'on a réouvert 5 sous-préfectures.
Oui, ça.
Mais bon, parallèlement, on le vit tous. Hein, c'est un bureau de poste qui va fermer, c'est plein de choses. Et après, voilà. Donc tout est dématérialisé. Et on s'étonne que le service public parte en quenouille, comme on dit. Donc des affaires internes, et puis donc ce diplôme qui est tourné vers l'international, et comme tu le disais à l'instant, un gros dossier sur l'Inde.
Très intéressant.
Très intéressant, vraiment. Je vais évoquer ce dossier parce qu'effectivement, il est très complet. Il y a plusieurs auteurs qui se succèdent et qui connaissent bien ce pays. Donc, il y a notamment Christophe Jaffrelot qui nous dit « L'Inde, une démocratie ». Et donc, effectivement, il y a des élections dans ce pays-là, qui est donc le pays le plus peuplé désormais de la planète, plus que la Chine.
Donc on dit la plus grande démocratie.
Et donc voilà, et avec beaucoup de modestie, les Occidentaux et le président Modi aussi, évidemment, pour commencer par lui, eh bien, parlent de la plus grande démocratie que la Terre puisse connaître.
Et 980 millions de gens quand même. Donc voilà, avec des gens... Ouais, voilà. Donc du coup, en termes d'habitants, c'est la...
Alors, vu comme ça, évidemment, ça fait bien.
Je crois que c'est comme ça qu'il le voit.
Il le voit comme ça, d'ailleurs. Ouais. C'est pour ça qu'il reste au pouvoir depuis pas mal d'années maintenant. Et donc, le président Modi, eh bien, il est donc en place depuis 2014. Et il a donc instauré dans ce pays, dans cet immense pays, un régime populiste basé sur un parti... son parti, qui est le BJP, qui a des gros moyens et qui lui permet donc de rester au pouvoir et de repasser à chaque fois aux élections. Et le fait de rester autant au pouvoir, si certains regrettent, par exemple, que notre cher Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter, ben là, il y a un président qui, donc, lui, peut se représenter. Sans parler de ce cher Vladimir Poutine. Mais là, il y a un président qui peut se représenter. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? C'est normal. Enfin, c'est normal. Je veux dire, c'est l'évolution normale des choses. Eh bien, que celui qui est au pouvoir, il utilise le pouvoir pour placer des amis à lui un peu partout. Évidemment, dans le gouvernement, mais aussi parmi les présidents d'université. Et donc... cela lui permet donc d'avoir une assise de plus en plus importante dans le pays, d'avoir une chambre des représentants qui est devenue une chambre d'enregistrement, puisque tous les élus sont de son camp, enfin tout, pas tous, non, mais une grande partie sont de son camp. Et donc, peu à peu, eh bien, il a pu tuer l'opposition dans l'œuf. Et donc, le président... Modri, eh ben, gouverne comme ça, tranquillement. Et il a trouvé une cible aussi. On peut faire beaucoup de parallèles avec chez nous. Hein. Ouais. On a trouvé une cible parce qu'évidemment, comme ça, ça fait quelque chose comme un miroir aux alouettes qui capte l'attention, qui permet de se détourner des autres domaines. Eh ben, là, ce sont les musulmans.
Bah, voilà.
Les musulmans sont trouvés, ils sont ciblés. Il y a eu des répressions très rudes. Et donc, le président Modri sait que, voilà, il a trouvé son bouc émissaire.
Son ennemi de l'intérieur.
Son ennemi de l'intérieur, exactement. Exactement, oui.
Si tu permets, avant de continuer, le Christophe Jaffrelot dont tu parlais de l'article, il y a 5 ans, il était interviewé sur Mediapart. C'était juste après la réélection de Modi. Et le journaliste lui a demandé ce que c'était, parce qu'il théorisait le fait que c'était devenu un populiste, machin, et il parlait justement de ça, le nationalisme hindou. Écoutez, qu'est-ce que c'est le nationalisme hindou ?
En fait, vous retrouvez dans ce nationalisme hindou ce qu'on peut trouver du côté du sionisme, par exemple, la définition d'un peuple qui va avoir des caractéristiques linguistiques, religieuses, culturelles, une identité qui, en plus de cela, est complétée par un territoire. Mmh. Pour le nationalisme hindou, ces 4 critères sont absolument fondateurs. Bien sûr, la religion, mais à la limite, ils n'en parlent pas en premier. Et ils ne sont pas particulièrement religieux. Certains d'entre eux ne vont pas au temple.
Ils pratiquent peu, quoi. Ils
pratiquent assez peu. Par contre, ils se voient comme les descendants d'un peuple qui a toujours habité ce territoire, hein, sous l'arc himalayen, isolé du reste du monde par des montagnes qui sont les plus hautes du monde, justement, et puis évidemment les océans, que les hautes castes n'avaient pas vocation à franchir, car quitter le territoire sacré de l'Inde pour aller à l'étranger par la mer, c'était la recette absolue pour l'impureté radicale qu'ils cherchaient à éviter. Donc ils ont vécu, c'est vrai, dans ce territoire pendant des centaines, voire des milliers d'années. Une langue, troisièmement, descendant du sanskrit, le hindi, qui est la langue qu'ils veulent promouvoir et dans laquelle ils se reconnaissent. Et puis alors, une culture qui va emprunter à toutes sortes de répertoires culinaires, musicaux, mais qui au moins se définit par défaut, par rejet des influences extérieures et notamment musulmanes. Avec ces 4 critères, vous avez ce qui fait le nationalisme hindou par rapport aux autres, en réaction aux autres, et où la religion n'est qu'une des composantes.
Des composantes. Christophe Jaffrelot, politologue, enseignant, spécialiste de l'Inde et auteur de L'Inde de Modi, sorti en 2019.
Alors, on n'est pas. C'est un peu la suite du dossier, on n'est pas une hérésie près. Donc, effectivement, on pourrait se dire, mais est-ce que ce pays est bien fréquentable ? Bon,
oui.
C'est vrai qu'on n'est pas une hérésie près, on en fréquente d'autres. Mais là, il y a une raison de plus, si je puis dire, par rapport à d'autres pays avec qui on compose quand même, malgré tout, c'est évidemment, il vaut mieux l'Inde que la Chine.
C'est ça.
Donc c'est l'article qui suit ensuite dans ce dossier, dans ce diplôme. C'est pas la Chine, c'est un article de Renaud Lambert. L'Inde, du coup, comme c'est le grand rival, surtout dans cette partie du monde, en Asie, c'est le grand rival de la Chine, eh bien, on ne vient pas, en gros, embêter l'Inde, puisque ça fait un appui pour les Occidentaux qui est très important. Et dans son article, Renaud Lambert donne un exemple qui est vraiment symptomatique. C'est l'histoire des services secrets indiens qui sont allés assassiner un opposant sur le sol canadien.
C'est ça.
Bon, d'habitude, ça ne se fait pas. On se dit non, quand même, vous exagérez. On rappelle l'ambassadeur ou je ne sais pas. Et du coup, on rappelle l'ambassadeur du pays et puis on lui fait la leçon. Et puis son propre ambassadeur dans le pays même, eh bien, on le fait revenir. Non, là, c'est passé, rien. Biden n'a rien dit. Tout s'est bien passé et on lui trouve, je crois que juste Biden s'est dit quand même, faut que je marque le coup. Alors il était invité par l'Inde, par Modi, à quelques festivités et donc il n'y est pas allé. Et devinez qui y est allé ?
Ouais.
Ben, c'est Emmanuel.
Emmanuel.
Mmh. Emmanuel Macron. Voilà. Eh ben oui, nous, on ne va pas se fâcher avec eux non plus. Ils nous achètent les rafales par douzaine. Voilà, on ne se fâche pas avec eux. Et puis donc, comme je le disais initialement, eh bien, ils ont un gros avantage, c'est que ce n'est pas la Chine.
Ce n'est pas la Chine.
Donc, à chaque fois qu'on leur permet quelque chose, on se dit, là, t'es allé un peu loin. Ah oui, mais vaut mieux ça que la Chine.
C'est ça.
Donc, on compose avec eux et ce sont devenus des amis. Parce que quand même, du coup, l'Inde, qui est notamment l'un des pays à la base des BRICS, on en a déjà parlé il y a un mois ou deux de tout ça, eh bien, l'Inde n'a pas condamné l'invasion en Ukraine.
Mmh. Non, c'est vrai.
Ou très mollement. Et puis, qu'est-ce qu'ils font, l'Inde ? Eh bien, ils récupèrent à un prix un peu bradé le pétrole russe. qui, ironie du sort, est revendu à l'Occident au besoin. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un blocus efficace. Et donc,
Après, l'Inde a des liens historiques avec la Russie depuis très très longtemps. Dès les années 70, en tant que pays non aligné, ils ont préféré faire des accords commerciaux et militaires avec l'URSS plutôt qu'avec les États-Unis ou l'Europe. Et c'est vrai que du coup, il y a une très très longue histoire de la diplomatie russe en Inde.
Oui, c'est clair. Et effectivement. Et du coup, c'est pas devenu un inconvénient. On fait quand même avec eux, puisqu'on en a besoin. Et dans son article, Renaud Lambert précise également que c'est un pays, l'Inde, qui soutient Israël.
Tout à fait.
Puisqu'Israël, c'est l'ennemi des musulmans et donc et de l'islam. Et donc, évidemment, eux-mêmes, ils font la chasse, comme je viens de le dire, dans leur propre pays. Donc, ils vont pas. Ils sont tout à fait derrière Israël dans son combat contre le monde arabe en général.
Finalement, la géopolitique est devenue très simple. Ah, t'aimes pas les musulmans ? Bah, bon, je suis avec toi.
Très simple, et quelquefois, tu sais plus qui a couché avec qui.
C'est ça. C'est ça.
Qui est le cocu ?
Oui, c'est exactement.
Là, ça peut changer. Ça, c'est bien. Au moins, les mouches ont changé d'âne, comme on dit dans nos campagnes. Et donc, cet article de Renaud Lambert, je peux que vous le conseiller, ainsi qu'un article de Bénédicte Magnier, Le nouvel atelier du monde. Et oui, aussi, ils sont très intéressants parce que sur le plan industriel, ils ont énormément développé tous les emplois dans la fabrique, on va dire, dans les manufactures. Et ils voudraient même prendre la place de la Chine. Alors, c'est pas évident, mais ça fait quand même que ce pays, qui est si pauvre par ailleurs, il faut pas l'oublier, est la troisième économie mondiale.
Tout à fait.
Et donc, avec un PIB qui a progressé de 6,7% en 2023, ce qui était la plus belle progression de tous les pays du monde. Et on annonce également une belle progression en 2024. Donc voilà, c'est un pays qui place ses pions lui aussi. Et alors avec quelques handicaps, on va dire, c'est-à-dire que l'Inde affiche un taux d'analphabétisme, ça y est, je l'ai dit. Il va falloir que je fasse aussi un petit peu d'orthophonie, moi. Et de sous-alimentation considérable, c'est-à-dire qu'il y a 24% d'analphabètes et 17% de gens malnutris, quand même. C'est très important. Voilà comment ça se passe dans ce pays-là. Il y a aussi dans ce dossier du Diplo du mois d'avril un article de Camille Auvray, « Les bons amis du Premier ministre indien ». C'est-à-dire que, comme je le disais, Modi et son camp sont au pouvoir depuis pas mal d'années. Et donc, ils ont pu développer des liens très, très forts et qui un peu viennent un peu tout phagocyter. C'est-à-dire qu'il y a des partenariats publics-privés qui sont très développés. Un peu comme quand il s'agit de construire des prisons en France. Là aussi, ça marche ailleurs. Et donc, les hommes d'affaires sont devenus les amis du pouvoir. Même, ils sont tellement amis du pouvoir qu'ils sont devenus des élus aussi.
Tout à fait.
Ça permet comme ça d'être copain-copain. Et donc, on ne laisse pas beaucoup de place aux autres. Et donc, dans son article, Camille Auvray nous dit c'est la politique de la mallette. C'est-à-dire que je suppose que c'est pour financer une campagne, eh bien, ces hommes d'affaires financent largement le parti au pouvoir. Et là-bas, tout le monde n'est pas le pays des droits de l'homme, les donateurs restent anonymes, quel que soit le montant des dons. Donc,
ça permet pas mal de choses.
Bon, ici, en France, normalement, on a l'identité de tout le monde. Il y a même un certain Kadhafi qui aurait donné dans une campagne.
Ouais. Le problème, c'est ça. Ici, tu as le risque de paraître dans Mediapart.
Voilà.
Et donc, en Inde, c'est réglé.
Et donc, du coup, ces hommes d'affaires qui, compte tenu de l'immensité du pays, du développement du commerce, il y a des gens qui ont vraiment des fortunes. Et d'ailleurs, il est évoqué dans ce dossier le cas, par exemple, de Monsieur Abami, qui est un homme qui a le sens des affaires et qui est devenu l'homme le plus riche d'Asie. Alors, je ne sais plus à combien il monte, mais c'est un milliardaire, évidemment, plus. Pour l'anecdote, et dans un pays où, encore, il y a, je le disais tout à l'heure, il y a quand même une pauvreté énorme, mais ce monsieur s'est fait construire un immeuble, rien que pour lui, hein, évidemment, de 27 étages. Bien pourquoi sûr. 27
Oui, c'est ça.
Dont la construction aurait coûté 1 milliard d'euros. Voilà. Comme quoi, si vous allez là-bas, je pense qu'il peut vous loger. Enfin, ça ne doit pas être facile pour y rentrer. Voilà ce dossier du monde diplomatique donc consacré à l'Inde. Dans ce diplo, je voudrais quand même laisser la place à mes camarades. Il y a un article extrêmement intéressant aussi sur Israël. En Israël, les dirigeants laïcs enrôlent la religion. Un article très intéressant Marius Schattner, où il a dit que même si on n'est pas convaincu par la religion, elle est très utilisée. C'est-à-dire qu'elle justifie, la religion permet de justifier le recours aux armes. Mmh. Et le fait que Benjamin Netanyahou, lui donne évidemment un vernis divin à la guerre qu'il mène contre le Hamas et à Gaza. Et ce qui est inquiétant dans cet article, comme dans celui qui suit et qui est de Anne Vallès, sous couvert de religion, on se permet de les plus extrêmes, les ultranationalistes. Eux ne cachent pas dans le privé qu'ils veulent raser Gaza,
oui,
en fait.
Oui.
Et on nous parle dans un premier temps d'une vengeance contre le Hamas, mais en fait, ils veulent aussi raser complètement Gaza. Et comme ça, ils auront pris toute la place en Palestine. Et donc,
après, il restera la Cisjordanie.
Il restera la Cisjordanie, mais ils y songent aussi quand même.
Oui, ils colonisent pas mal.
Ils utilisent beaucoup les colons pour prendre la place aussi. Donc c'est un combat messianique. Nous dit Marius Schattner, qui sert un peu de prétexte à leurs interventions guerrières et violentes. Et je le disais, il y a aussi un article, Dieu n'existe pas, mais il nous a donné cette terre, de Anne Vallès, qui est intéressant à lire. Et je peux vous inviter, je peux que vous inviter à lire cet article du Diplo. Et puis, pour faire la liaison avec Pierre, peut-être tout à l'heure, on évoquera peut-être ensemble un article sur les États-Unis, le pays où le gun est roi, de Maël Mariette et de Francis Poupeau, qui est extrêmement éloquent lui aussi.
Absolument. Un peu de musique, on part au Portugal. La musique, c'est les Libertines. L'album, alors je ne l'avais pas écouté, mais il est sorti en début d'avril. Hein, je crois.
Oui, ce sont Rabbi Boché de Doherty je ne sais plus comment qui, son compère. Ouais. Et c'est bien quand il se rabiboche.
Ben oui, et le morceau s'appelle Oh Shit, c'est ça?
Oui. On traduira pas.
Oui, non, on ne va pas traduire. Alors, je mets ça en musique tout de suite. Oh Shit. Voici les Libertines. Si ça veut bien démarrer, allez. Ben oui, ça démarre. C'est un bâton rompu, c'est jusqu'à 20h. Merci de rester avec nous. Broke down at Imo's every scandal. Imo went west and Jamie sang the blues. It was Nicky's raw heart that lit her fuse. She went, oh shit, oh shit. Let's make some money, just enough to get us by. I want you when you smile. Oh, you got the dollars in your eyes. My love is so sick, so sick. Just takes a minute to obliterate our mind. I want you when you smile. Carving her initials.
Le nouvel album de The Libertines est sorti, oui, effectivement, début avril. Il s'appelle All Quiet on the Eastern Esplanade. Oui, comme je disais, en fait, ça faisait 9 ans qu'ils n'avaient pas fait d'album ensemble. La raison, c'est que Pete Doherty, le leader du groupe, avait essayé de cambrioler l'appartement du pote Barack. Je n'avais pas cette histoire, je viens juste de l'avoir.
Oh shit, alors.
Je comprends bien pourquoi ils se sont séparés à une
époque. Il y a de quoi.
Mais en tout cas, ouais, ben, j'irai écouter parce que j'aime bien ce premier morceau, oh shit, que tu nous fais découvrir, Henri.
Abattons rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Victor, élection législative donc hein, au Portugal, c'était le 10 mars, tu disais, et percée de l'extrême droite.
C'est ça.
Chega, il s'appelle. Hein.
Oui, Chega, ça veut dire ça suffit, apparemment.
Chega Caralho.
Peut-être, je ne sais pas, je ne parle pas portugais, donc... Mais oui, c'est un petit peu étonnant, puisque on fête aussi cette année les 50 ans de la fin de la dictature de Salazar.
C'est le 27 avril, là, bientôt, non 25.
Ouais, ouais.
25. Ouais.
Et donc, le parti d'extrême droite portugais Chega, donc ça suffit, remporte 18,07% des suffrages, soit 50 députés quand même.
Ah ouais.
C'est presque un quart des sièges. Il y a 238 députés en tout, donc effectivement, ça fait quand même une force politique importante.
Wow.
Sachant qu'on ne peut pas attribuer ça à un manque de participation, parce que c'est le plus fort taux de participation depuis 2005.
J'ai lu ça également.
Où il y a eu 59,84% des gens qui ont voté, donc c'est quand même un beau taux de participation pour le Portugal. Et c'est quand même assez... c'est d'autant plus étonnant qu'effectivement, le Portugal a une histoire un petit peu compliquée avec l'extrême droite, parce qu'on a eu la dictature de Salazar et Caetano. Qui était sur une base franquiste assez traditionnelle de fascisme catholique d'État. Et voilà, et ça, c'est étonnant du coup de voir la résurgence de l'extrême droite. Alors, mais d'où vient cette extrême droite? Alors, son dirigeant, André Ventura, en fait, a créé son mouvement il y a 5 ans. Avant, il était commentateur sportif en football.
Je sais.
Donc, comme quoi, bon, du football au fascisme, il n'y a qu'un pas, peut-être.
Attends, dites-moi, il a pas fait téléfoot Pascal Pro? Je crois que si. Oh là,
peut-être.
Attends, je touche du bois en même temps que je vous dis ça. Ouais. Je touche du bois.
Allons-y. Mais tu vois, c'était trop haut pour lui, pour Pascal Pro. Il est passé à autre chose.
Et donc, du coup, qui développe un discours anti-immigration et homophobe. Enfin, voilà, prétend vouloir supprimer l'union de personnes de même sexe, etc. Et tout.
Ah, ils sont violents dans le texte, quoi. Mm-hmm. C'est terrible.
Et bien évidemment, il a, comme c'est souvent le cas à l'extrême droite, le soutien de grands hommes d'affaires qui sont conservateurs et qui, du coup, lui prêtent de leur argent pour ses campagnes électorales. Mmh. Alors, pourquoi il y a un retour de l'extrême droite? Alors, déjà, d'après l'article, le souvenir de la dictature s'efface petit à petit, puisque ça fait quand même 50 ans que c'est derrière nous.
C'est terrible et triste. Ouais, vas-y.
Oui. Bah, après, en même temps, l'extrême droite remonte aujourd'hui dans un parti, enfin, avec la montée d'un parti qui était à la base fondé par d'anciens collaborationnistes. Mmh. Moi, ça ne m'étonne pas plus que ça, en fait. Mais,
tu n'as pas tort.
Pourquoi donc le souvenir de la dictature s'efface? On a un discours néolibéral qui est teinté de propositions sociales, notamment sur la question des retraites, l'élévation du niveau de la retraite. Et on a un discours anticorruption et anti-système avec le slogan « Nettoyer le Portugal ». Voilà, c'est comme quoi l'extrême droite est toujours la même, quel que soit le pays dans lequel on se trouve, hein, mais c'est quand même assez édifiant de ce type de propos. On a des attaques directes contre les migrants et les gitans portugais, accusés bien évidemment de crimes et de délits, même si, d'après les statistiques judiciaires, seuls les délits d'incitation à la haine raciale ont augmenté cette année. Mais voilà, il y a un discours sécuritaire comme quoi le nombre de crimes augmente, le nombre de délits augmente, etc. Et tout. Alors pourquoi ça monte? Pourquoi l'extrême droite monte?
Vraie question.
D'après l'autrice de l'article, donc Sandra Montero, c'est parce qu'il y a eu un échec relatif de la gauche au pouvoir depuis une dizaine d'années. En fait, globalement, ils ont un bilan qui n'est pas forcément si négatif que ça. Ils ont diminué le chômage, ils ont augmenté le salaire, voilà. Mais il y a eu peu de changements structurels. Il y a eu des réformes néolibérales qui ont été imposées par Bruxelles et le FMI. Il y a une inflation qui est galopante. Et du coup, ça joue, ça fait la pression sur les catégories populaires, bien évidemment. Ce sur quoi un discours sécuritaire s'est complètement imposé dans la campagne, apparemment de l'extrême droite à l'extrême gauche, où du coup il y a un lien qui a été fait entre immigration et criminalité, même par les membres du Parti Socialiste Portugais.
Mais oui.
Moi, ça me fait beaucoup penser à... comment il s'appelle ? Un théoricien italien qui a parlé d'hégémonie culturelle.
Gramsci,
c'est ça. Qui expliquait qu'en fait, en gros, avant de gagner par les urnes, il faut d'abord gagner par les mots.
Mais c'est ça.
Et il faut imposer dans son débat, dans le débat public, les catégories de pensée de ton groupe pour obtenir les élections. Et là, comme bien évidemment le discours sécuritaire a été approprié par tout le monde, bah, en fait, ceux qui étaient les mieux placés dessus, c'était l'extrême droite. Évidemment. Logiquement.
Évidemment. Et Jean-Marie Le Pen, ici, là, arrête pas de le dire depuis longtemps. Hein. Il dit oh, les gens préféreront toujours l'original. Oui, mais on y est. Mais enfin bon, c'est terrible. Allons-y.
Après la révolution des œillets, pourtant, l'extrême droite se tenait relativement tranquille. Oui. L'Église avait pris ses distances parce qu'elle était quand même très proche du pouvoir au moment de l'extrême droite. Elle avait pris ses distances avec l'extrême droite. Il y avait une émigration massive de la part des populations portugaises, donc du coup ça limitait les discours d'extrême droite parce que on a beau jeu de se plaindre des immigrés quand la moitié de la population va travailler en France ou en Allemagne.
Clairement.
Et le Parti communiste était relativement puissant. Mais malheureusement, c'est à partir des années 80, on a eu une accélération de la libéralisation de l'État qui a été imposée par le FMI et qui a fait beaucoup, beaucoup de mal aux services publics et aux structures intermédiaires qui permettaient aux Portugais de bénéficier d'un régime de solidarité qui était quand même relativement important.
C'est vrai.
Voilà, la construction européenne aussi a mis à mal des pans entiers de l'industrie, notamment textile. Ça a accentué les écarts de revenus et ça a augmenté... il y a des secteurs qui en ont bien profité, notamment le tourisme, la finance et l'immobilier, et des secteurs qui en ont pâti, notamment l'industrie et l'agriculture. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur une petite bombe potentielle avec la montée de l'extrême droite qui, justement, surfe sur ces discours-là. Et malheureusement, l'histoire leur donne un peu raison parce que même le Parti Socialiste et la gauche n'ont pas réussi à endiguer les réformes néolibérales du FMI et de Bruxelles.
Tout à fait, exactement. La situation est moins pire qu'ailleurs. Au Portugal, ça va, les gens, jusqu'à une certaine période, et tout ça, tout a dégringolé. Et il y avait le Parti Socialiste au pouvoir, et les gens les gens votent pour l'extrême droite quand la gauche... n'est pas au rendez-vous, absolument. Alors, on va finir de préciser les choses. C'est la droite qui est au gouvernement, en tout cas, en ce moment. Ils ont, pour l'instant, refusé de faire alliance avec Chega, je crois. Donc, pour gouverner le Portugal. Mais en tout cas, il fallait le souligner. Et 7 avril prochain, 50 ans de la fin du salazarisme.
M'a fait juste penser que j'ai vu au théâtre une pièce Patatas Fritas et je ne sais plus quoi, par une Espagnole, le voisin des Portugais, et qui c'est très manichéen, mais quand même elle a le mérite de le dire. Elle utilise une marionnette de Franco, là aussi, dans le pays voisin, donc absolument. En Espagne, il y a des nostalgiques.
Ils arrivent
Franco
à contenir jusque-là,
Et donc elle fait parler Franco, la marionnette Franco, et puis nous, le public français, nous rions. Et puis elle sort d'une boîte une petite marine.
C'est vrai.
Elle a l'air de nous narguer. Et faites gaffe, ça n'arrive pas qu'aux autres.
Ouais, super. C'était au théâtre d'Orléans.
Au théâtre d'Orléans. Ouais,
il y a pas longtemps, j'ai vu passer ça.
Patatas fritas, j'ai oublié si c'est favelas ou je ne sais quoi, ouais. Ou tapas. Mais bon, voilà, c'est une artiste bilingue qui parle ouais. bien français aussi, mais qui a prévu son truc et qui rappelle les Villenzer de l'Espagne et puis qui dit que voilà, attention.
Allez, juste après le jingle, Pierre, on part avec toi. C'est aux États-Unis, voir cette période, cette super période où les Noirs étaient citoyens, mais des sous-hommes. On est. Allez, jingle juste avant.
Abattant rompu, le magazine de l'actualité Alter International.
Le magazine de l'actualité Alter International. Tu en avais un petit peu parlé, hein, c'était au mois de
mars. Le mois dernier.
Voilà, c'est la suite. Alors,
préparez-vous à souffrir.
Oui, c'est vrai. Alors, à ton micro, il fait des. Voilà, on t'entend et on t'entend plus. Voilà, celui-ci.
D'accord. Ouais,
voilà,
ah, ça y est.
Oui, effectivement. Oui.
Et donc, l'article est sur les bonnes feuilles, hein, de Jim Crow, le terrorisme de caste en Amérique.
Oui.
Hein, ce système politique qui est.
Alors, agressif. Les bonnes feuilles d'un livre qui vient de sortir.
Oui, c'est ça.
Si vous pouvez me lire l'auteur, ça serait super.
C'est pas Jim Crow?
Non, Jim Crow. Je vais t'expliquer ce que c'est que Jim Crow.
C'est le nom des lois.
C'est le nom des lois, ouais.
Alors, on apprend, c'était le mois dernier, je vous avais invité à aller le lire. Mais j'ai survolé. Là, il y a la suite. C'est un article tellement long qu'ils l'ont divisé en deux. Donc je vais vous inviter aussi à le lire, en fait. Les lois Jim Crow, ce sont les lois qui ont permis à la ségrégation de se maintenir aux États-Unis. Alors, c'est plein de... C'est toujours, comme d'habitude, très bien documenté. Ça commence au 19e siècle, en 1800... 1800 après l'abolition de l'esclavage, ouais. les Noirs là-bas deviennent libres et il y aura une période de 10 ans où ça va bien se passer, mais petit à petit les Blancs vont prendre peur et vont vouloir les laisser. Donc c'est en 1864-5, quelque chose comme ça, ils vont vouloir les laisser dans leurs conditions de misère. Et il va s'en suivre, ça va durer jusque dans 1900...
64
Alors, 54, je crois que j'ai 54, en tête. Ouais. Ça va durer pendant en gros un siècle. Ouais. Où ce qui est démontré là, c'est que tout le système va s'y mettre. C'est-à-dire que les juges, la police, la population, pour maintenir les Noirs à leur place, à la place qu'ils pensent devoir avoir. Si vous allez lire, il est très bien documenté, honnêtement, vous allez apprendre plein de choses. C'est une litanie d'horreur, en fait. Parce que, alors je vais prendre les moins terribles. Par exemple, les Noirs, à un moment, ont voulu se défendre en allant voter.
Oui.
En se disant, on a le droit de vote, donc on va aller voter. Ouais. Du coup, ce qu'ils ont mis en place en face, dans les États différents. Alors, comme il y a une cinquantaine d'États aux États-Unis, tout le monde ne faisait pas la même chose. Mais ils ont mis en place des astuces. Alors, par exemple, il fallait savoir lire. Et puis, la personne qui devait lire, dès qu'elle se trompait un peu, non, tu ne sais pas lire, toi. Donc, hop, t'as pas le droit de voter. Ouais. Évidemment, la personne qui disait que tu savais lire ou que tu ne savais pas lire, laissait tous les Blancs lire et les Noirs rater. Ouais. Et comme ça, ils citent plein de petites astuces qu'ils ont eues. De petites astuces, des horreurs, en fait, pour empêcher les Noirs de voter. Les Noirs ont commencé également, comme ils travaillaient dans le coton dans le Sud, ils se sont dit, une fois qu'ils étaient libres, qu'ils allaient pouvoir acheter des fermes. Ils ont sorti des lois, comme quoi on ne pouvait pas acheter des fermes quand on avait justement la condition qu'avaient les Noirs à l'époque. Ils sont devenus métayers, les métayers des Blancs. Et les Blancs, c'est eux qui avaient la calculette. Par hasard, ils se partageaient la récolte et il y avait des calculs qui faisaient que les Noirs, ils n'arrivaient même pas à s'en sortir pour manger. Et que c'est une horreur, honnêtement, c'est une horreur. C'est clair. C'est terrible. Alors, je vais passer, je vais passer, je, 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 pas vous raconter ça, et allez le lire éventuellement, ouais. Mais il y a la même chose avec le lynchage, les tortures, les... Oh là là, des choses...
Ouais, ouais,
c'est... Le Ku Klux Klan, exactement, l'arrivée du Ku Klux Klan. Ouais. C'est vraiment incroyable ce que vivent ces gens-là-bas. Mmh. Alors, ça va finalement... Bah, il n'en parle pas tellement.
Juste
d'ailleurs.
Avant, je te rappelle le nom de l'auteur qui...
Ah oui, signe, donc je l'ai demandé. Oui.
Loïc Vacan.
Voilà, Loïc Vacan.
C'est Loïc Vacan.
Ça te dit quelque chose ?
Sociologue ?
Oui. Bah moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai étudié quand j'étais à la fac de sociaux. C'est celui qui est écrit par Corps et Âme, une sociologie des boxeurs noirs américains. Et effectivement, c'est un spécialiste de la question raciale américaine aux États-Unis, même s'il a fait ses études en partie en France et en partie à Chicago. Ouais. Et c'est un des derniers élèves de Bourdieu, en fait.
Ah, ok. Bah, je ne connaissais pas.
Et il écrit régulièrement dans le monde diplomatique, ouais. D'ailleurs.
D'accord. Ah bah, tu vois, c'est... J'étais passé à côté. Alors,
donc voilà,
Pierre,
donc...
tu vas nous dire ce que c'est Jim Crow. Et en fond sonore, je vais vous mettre une chanson. Dans les années 30, c'était très beau. On faisait de blackface.
Ah, c'est lui.
Et I went down to the river, but there I saw so many girls, I couldn't get away. Wheel about and turn about. Et ça danse, c'est blackface.
Alors, c'est extraordinaire ce que tu me fais écouter là. Alors, si on avait l'image, c'est un artiste qui a apparemment été très célèbre à l'époque,
il paraît, hein,
aux États-Unis et en Angleterre, et qui, en fait, se moquait des Noirs, et qui l'avait appelé, surnommé Jim Crow, donc Jim le corbeau, et il dansait d'une façon un peu ridicule.
C'est ça.
Tout ça pour ridiculiser le Noir. Alors, d'après ce qui est décrit, c'est une espèce de soumission d'un Noir qui va tout accepter et qui, finalement, se retrouve... La meilleure place qu'il ait à prendre, c'est celle d'être l'esclave ou, en tout cas, l'inférieur au blanc.
Et le nom de ce sinistre bonhomme, là, c'est Thomas Dartmouth.
Alors,
Daddy Rice, non ?
C'est écrit dans l'article, mais je ne l'ai pas en tête. Alors, je l'ai appris d'ailleurs. J'ai appris que Jim Crow venait de cette chanson-là.
C'est ça.
Ce qui s'est passé quand ils ont commencé à faire des lois pour garder les Noirs à leur place, ils ont appelé ça les Jim Crow Laws. Les lois de Jim le Corbeau. Ouais. C'était d'un racisme même pas caché, quoi. C'est ça qui est incroyable.
Ouais, ça a duré. Mais moi, je maintiens 64 ans. Hein, avant Johnson, il n'y avait rien de fait, vraiment, quoi.
Alors, ils ont commencé à lutter et à réussir. Alors, c'est pas tellement décrit, d'ailleurs, dans l'article.
Non, c'est pas ça, c'est pas écrit. Ouais.
Ils ont commencé à s'en sortir, en faisant des procès. Parce que separate but equal, c'est-à-dire on est séparés mais on est égaux. Ouais. Voilà, c'était la doctrine ségrégationniste, c'est-à-dire ils disaient aux Noirs, bah oui, d'accord, on est séparés, mais regardez, on a tous la même chose. Ouais. Donc, mais évidemment, les Blancs avaient tout ce qui marchait, les Noirs avaient tout ce qui marchait pas. Ouais. Je vous signale d'ailleurs, est-ce que vous connaissez la chanson On the Sunny Side of the Street,
oui.
Qui est une jolie chanson, qui est sur du côté ensoleillé de la rue. Qu'est-ce qu'on est bien du côté ensoleillé de la rue. Ouais. En fait, c'est comme en Espagne, vous, si vous allez en Espagne, il y a l'ombre et il y a la lumière. Ouais. Il fait trop chaud du côté où il fait beau dans le sud. Donc, les Noirs étaient obligés de marcher du côté du trottoir où il y avait du soleil, et les Blancs pouvaient aller à l'ombre. Et ça changeait pendant la journée. C'est quand même incroyable. Et donc, ils en ont même fait une chanson, On the Sunny Side of the Street, A Life Can Be So Sweet. On va quand même pas se laisser abattre. Je ne sais pas où ils allaient trouver cet enthousiasme-là, en tout cas.
À bâton rompu, l'état du monde.
On va rester aux États-Unis avec cet article. Alors, vous le commentez à deux, vous le décryptez à deux sur les armes aux États-Unis, ce beau pays.
Oui, puis Pierre nous fera un petit cours d'empathie.
Oui, absolument.
Je voulais terminer. Je sais
tu
pas
le fais maintenant. Ouais, non, mais c'est bon. Tu le fais maintenant, alors, sur l'empathie. Allez, vas-y.
Ah bah, si vous voulez.
Il a l'empathie frémissante.
Du coup, cet article, honnêtement, vous allez le lire, vous allez voir, c'est une litanie d'horreur. Ça nous met en ébullition aujourd'hui, et heureusement qu'on n'accepte plus ça. Et il y avait...
Oh, faut le dire vite.
Il y avait... Oh, honnêtement. Non,
ça, honnêtement, ce qui se passait avant, c'était, ouais, c'est plus possible.
Ah ouais, honnêtement, ça serait pas possible. Honnêtement, ouais. Je pense que ça serait pas possible. Alors oui, il y a des relents, il y a des choses, et on se mobilise, etc. Mais c'est incroyable ce qu'on lit. Donc il y avait un article sur l'empathie. Donc je me suis dit, tiens, voilà quelque chose de positif. Alors il y a également Serge, j'ai plus son nom non plus, vous allez me le retrouver.
Oui.
Un philosophe qui vient de sortir un livre sur l'empathie. Alors, il raconte l'histoire de l'empathie. C'est très intéressant, comme d'habitude, très documenté. D'où ça vient ? Alors, ça nous vient de pareil, du 19e. Ça a été repris par les psychologues. Et puis, il cite même, bizarrement, Philippe K. Dick dans cet auteur de science-fiction qui va faire de l'empathie la différence entre un robot et un être humain, ce qui différencie. Voilà, un cyborg d'un être humain, c'est l'empathie. Donc cette belle émotion qu'on peut avoir et qui finalement se met à la place de l'autre pour l'aider. Alors dans l'article, il dit quand même, dans son essai, il dit quand même que l'empathie, c'est quelque chose qui a été mis en place au cours de l'évolution pour que l'être humain s'en sorte en groupe, en grand groupe. C'est un sentiment qui va avoir envie de réunir les gens. Mais il commence quand même par dire que le fait de vouloir rester dans son clan et par rapport au clan d'à côté, c'est également quelque chose qui s'est développé au cours de l'évolution et qui peut éventuellement justifier ou en tout cas qui va donner le racisme. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va développer. Il se trouve que Gabriel Attal a proposé à la rentrée, de mettre des cours d'empathie à l'école primaire.
J'ai entendu ça.
Moi, je trouve ça pas mal, honnêtement. Ouais. Je trouve ça pas mal. Alors, j'entends Victor qui rit. Alors, mais je sais pas, vous allez me dire pourquoi vous aimez pas ça.
Mais non, mais c'est pas qu'on... Ça nous fait rire un peu. Mais
pourquoi
c'est
pas
qu'on aime pas. Victor... Oui, mais alors, comment on se forme ?
Oui, c'est ça.
Oui,
ça.
Oui, on en sait quoi ? La question, moi, c'est juste que de la part d'un gouvernement qui tape systématiquement sur les pauvres, les musulmans et les exclus, je me demande quel type de cours d'empathie ils vont bien pouvoir nous donner.
Et bam !
Ah bah alors, Victor, quelle merveille, il vient de me souffler ma conclusion, parce que en fait, ce qui se passe dans...
C'est ça, moi j'ai aucune empathie pour Victor, parce qu'il pique toujours les conclusions des autres.
Non mais ce qui se passe, c'est que dans cet article, l'autrice nous dit que finalement l'empathie, qu'est-ce que c'est que cette émotion poisseuse là qui fait que... elle critique un petit peu l'empathie, justement en parlant comme ça, en disant que le gouvernement, il veut mettre l'empathie à l'école. Ouais. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faille jeter l'empathie avec l'eau du bain. Je ne suis pas tellement d'accord avec
c'est la conclusion. C'est peut-être toi qui a raison, en fait. Oui.
Alors, je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas...
Mais quand on voit toute la violence, là, depuis quelques jours, c'est possible. Mais on enseigne quoi ? Oui. Ok, on enseigne ça à l'école, mais comment ?
Alors ça, je sais pas. Au Danemark, c'est ce qu'ils font.
Il paraît. J'ai vu un reportage.
Déjà l'empathie. Ouais. Il y a quelque chose qui s'appelle la communication non violente qui existe. Il y a des gens qui vont pouvoir le faire. Alors évidemment, c'est comme
la
tout.
La communication non violente, oui, il y a quand même des gens, même ici, dans notre beau pays, comme dit l'autre, qui sont capables d'intervenir là-dessus.
Absolument. Oui,
si,
oui,
donc... si c'est une matière, une année là-dessus.
Honnêtement, je ne sais pas comment ils vont faire, comment ils vont se débrouiller.
Le reportage sur le Danemark que j'ai vu, que j'ai regardé, ça a l'air de marcher. C'est vrai que les gamins, ils ont suivi longtemps.
Ah non, mais que ce soit c'est une bonne chose. Mais comment on va...
Alors, est-ce qu'ils vont...
Voilà, c'est pas une raison pour ne pas essayer, évidemment.
Est-ce qu'ils vont mettre des sous là-dedans ? Parce qu'évidemment, dans l'éducation nationale, ils ont plein de bonnes idées. Et puis, au bout du bout... Ben, il se passe rien parce qu'il n'y a pas de sous. Donc, ça se trouve, ça va faire comme un pétard mouillé une fois de plus. J'espère pas. Moi, ce que je voulais suggérer, c'est ce qu'a dit Victor avec son esprit comme la foudre et l'éclair. C'est que, en fait, au lieu de jeter l'empathie en disant que finalement ça, on va s'en débarrasser, moi je propose de dire que c'est l'État d'abord qui est en manque d'empathie, en laissant gens crever de faim, crever de faim en France, on exagère, mais en ne faisant pas du partage de la richesse une priorité. Voilà.
Très bien.
Et donc, parce que les syndicats, l'exemple qu'elle donnait, c'était Macron qui avait dit aux syndicats qui avait bloqué lors de je ne sais pas quelle règle, de quelle grève, en leur disant « Ouais, vous n'êtes pas empathique par rapport aux gens qui vont aller bosser. » Et on a envie de dire à Macron bah, « Et toi, est-ce que tu es empathique quand, avec tout ce que tu... » Sois un peu empathique d'abord. On a envie de dire à l'État « Soyez empathique et le reste suivra. » Voilà.
C'est-à-dire, si on veut l'enseigner, il faudrait au moins en avoir un échantillon sur soi, quoi.
Ouais, mais bon, je conçois que l'État demande d'enseigner telle et telle matière sans qu'il en soit un maître non plus, je veux dire.
Oui, non, mais comme tu le disais très justement, si c'est une bonne idée, mais après, comment on va la mettre en place et quels moyens on se donne pour la mettre en place.
C'est ça, moi, voilà. C'est ces deux choses-là qui me... Voilà. Vas-y.
D'ailleurs, c'est pour revenir sur Philippe Cadic, il y avait une super nouvelle que j'avais lue de lui, où en fait, pour apprendre l'empathie aux gamins, en fait, on leur implantait des microprocesseurs dans la tête. Et en fait, quand ils faisaient quelque chose de mal vis-à-vis de quelqu'un, on copiait l'émotion qui avait été subie par la victime et on l'infligeait à l'agresseur. Pour que lui-même puisse se rendre compte en fait à quel point et pour créer des enfants. Alors dans la nouvelle ça part complètement en dérive, c'est-à-dire que ça fait des gens qui ont peur de vaudou, surtout ça fait des gens qui en fait ont tellement peur d'offenser ou de faire du mal et tout qui se retrouvent castrés entre guillemets. Ouais. Mais ouais, c'était une solution potentielle.
Pour finir cette émission, on va quand même parler de ce pays, ce merveilleux pays, je disais, millions d'armes.
On en parlait avec Pierre tout à l'heure avant l'émission. C'est cet article donc de Maël Mariette et de Franck Poupeau qui dit le pays où le gun est roi. Voilà. Et donc là aussi, c'est impressionnant. On le sait, c'est que les États-Unis sont le pays des armes, le pays de l'autodéfense qui progresse. Il y a quand même 50 millions d'Américains qui ont au moins une arme, et très souvent ils en ont plusieurs. Et donc tout ça garanti en quelque sorte par le deuxième amendement de la Constitution qui autorise chaque personne à pouvoir assurer sa propre défense.
C'est ce qui est probablement la plus grosse épine dans le pied des gens qui voudraient arrêter ça, quoi. Ouais. C'est que comment toucher à la Constitution américaine qui a 200 ans, plus de 200 ans.
Et là-bas, tout le monde y tient en plus.
Et mais c'est un texte incroyable d'ailleurs, qui a été écrit par des demi-dieux, je ne sais plus, en 3 mois. Enfin bref, ils n'y ont pas touché depuis.
Mais non, c'est vrai.
À part la quinzaine d'amendements qui sont arrivés assez vite. Et voilà, c'est vrai qu'on se demande qu'il doit y avoir des gens raisonnables là-bas qui doivent se rendre compte que plus on met des armes dans les mains des gens et plus les gens vont se tirer dessus.
Il y a eu tellement de choses, des tueries dans les écoles. Moi, je me rappelle de ces images d'Obama qui pleure à la télé, qui reçoit des parents qui ont perdu des enfants. Et là, derrière, il y a des sondages qui sont faits en direct. Ils sont très forts, les Américains, là-dessus. Et il y avait genre 53% de gens qui disaient « Il faut bannir les armes au niveau fédéral ». Et on y est.
Oui, alors ils prennent des mesurettes, c'est assez impressionnant, c'est glaçant, ils disent que si, ils ont fait quelque chose quand même vis-à-vis des armes, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas acheter des chargeurs automatiques pour tirer plus vite, quoi. C'est assez impressionnant. Il dit ça, on l'a interdit.
On en est là.
D'accord. Le gars, tu lui donnes une bombe, il dit, on ne lui a pas donné la plus grosse quand
même. C'est ça.
Et parce que mine de rien... ça, c'est pas des mines antipersonnelles. Il a été vendu, ou acheté, si on veut, 23 millions d'armes à feu en 2020 aux États-Unis. 23 millions. Et parmi tous ces acheteurs, les nouveaux sont plus de 8 millions de nouveaux acquéreurs. Et dans cet article qui est impressionnant, qui est glaçant encore une fois, les deux auteurs démontrent bien que le porteur d'une arme, c'était le blanc, un peu âgé, plutôt un homme. Et maintenant, donc tout le monde veut se défendre. Les femmes veulent se défendre. Donc 40% des femmes sont parmi les acheteurs d'armes. Depuis l'assassinat de George Floyd, les Noirs s'arment eux aussi pour se protéger.
À mes auditeurs, allez lire cet article juste pour ça. Il y a une famille. Tu vois la photo devant. Il y a une vingtaine d'armes automatiques. Et ils posent avec sa femme et ses deux enfants, un noir.
Ouais, c'est ça. Les enfants peuvent aller au stand de tir à partir de l'âge de 5 ans.
Superbe.
C'est assez impressionnant.
Mais sur l'autodéfense des noirs américains, il faut se rappeler aussi que le contrôle des armes a déjà été mis en place dans certains États aux États-Unis, justement pour lutter contre les noirs américains. Notamment dans les années 60 et 70, il y avait les Black Panthers qui justement affichaient fièrement le fait de porter des armes pour se défendre face à la police. Et Ronald Reagan, notre cher futur président néolibéral, etc., et tout, qui était gouverneur de la Californie à l'époque, a réussi pour une fois à mettre en place une règle de contrôle des armes pour faire en sorte que les Black Panthers ne puissent pas avoir accès à des armes pour défendre la population.
Oui, c'est vrai que même sur ce plan-là, les Noirs sont plus contrôlés.
Oui, c'est ça.
Et, et donc toutes les minorités, les Latinos, les LGBT, tout ça, tout le monde s'arme pour se protéger. Puisque c'est un droit qu'ils revendiquent, et du coup, j'achète une arme pour me protéger. Alors effectivement, on a l'impression qu'un jour, ils vont finir, ils vont creuser des tranchées, ils vont se tirer dessus. Voilà. Et comme tu le disais il y a un instant, eh bien, malgré toutes les horreurs, ces tueries dans des écoles, dans des collèges, etc., ou dans des centres commerciaux, eh bien, malgré tout, on dit « ah oui, mince, alors, et puis tant pis ».
Et puis tant pis.
On en reste là, et au contraire, le commerce des armes est prospère. Ouais.
Terrible, hein. C'est une. Et ce pays continue. Et là, il y a des discours, il y a des élections là au mois de novembre, du côté de Trump, évidemment. Trump, maintenant qu'il est en train de baisser un petit peu dans les sondages contre Biden, et il dit bah, si je ne gagne pas, ça sera un bloodshed. Pierre, c'est quoi? C'est le sang va couler, quoi, partout.
Un bain de sang.
Un bain de sang, voilà, pardon. Et il y a des gens de son autre côté qui sont surarmés. Et il y a de plus en plus de, comme on disait tout à l'heure, de noirs, de femmes qui sont plus. De l'autre côté, dit-on, qui sont aussi armés.
Ouais, non, c'est un pays incroyable.
C'est un pays parce incroyable.
Que on parle de ce qui se passe avec plutôt de ce qui se passe pas bien quoi, mais c'est aussi un pays incroyable.
Formidable.
De l'autre côté, c'est un pays formidable.
On le dit tout le temps.
Ouais. Voilà. C'est un pays impressionnant, que ce soit dans le positif ou dans le
négatif.
Négatif.
Voilà, ils sont aussi bons qu'ils sont mauvais quoi.
Et que dans cet article, encore une fois, il cite donc ce lobby des armes, le NRA, dont la devise, c'est en quelque sorte sa devise, « Avec une arme, je suis un citoyen, sans arme, je ne suis qu'un sujet.
» Oui, bah oui. Ouais.
Alors voilà.
Ça veut tout dire.
Et donc, également, il est expliqué dans ses lignes que même finalement du côté démocrate, ben on n'est pas trop non plus contre
ils
ce
sont
commerce-là.
Majoritairement, ben bien sûr.
Même Biden avait fait, quand il avait fait sa première campagne contre Trump, il avait affirmé clairement que lui-même avait des armes à feu et était pour le port régulé des armes à feu, mais quand même pour l'autorisation des armes à feu.
Pour être élu, il faut dire qu'on est pour la NRA forcément, mais pour les armes en fait. Voilà. En tout cas, pas contre.
En même temps, comment faire pour s'en débarrasser? Parce que même si on disait à partir de demain, on interdit les armes, ils s'en est vendu 22 millions, ils sont toujours là, les armes.
On est d'accord.
Oui, ça c'est voilà, sûr qu'il y a du stock.
De toute façon, il y a un tel stock que même si ça prendra des années et des années et des années à désarmer, c'est impossible.
C'est clair. Merci à vous, les amis du monde diplomatique. On se retrouve le mois prochain, le deuxième mardi du mois. Rappelez également que Manière de voir est sortie.
Manière de voir est sortie sur l'immigration.
J'ai commencé à le lire. Ouais. Allez également le lire. Vraiment.
J'ai l'intention de le lire aussi. Ouais.
Et vous annoncez aussi que jeudi prochain, à l'Astrolab d'Orléans, il y a du reggae dub ou des reggae digital. Et on va d'ailleurs terminer cette émission avec un bout du gars qui va venir. Il s'appelle Manu Digital. C'est un petit génie du reggae digital. Il sera avec Tetra Hydroca, qui sont aussi des jeunes gens que je ne connaissais pas, mais qui font du reggae. Et il y aura avec eux, tous les deux, une jeune fille que j'adore, Tracy de Sa, et d'Apache, que je ne connais pas non plus. Mais en tout cas, si vous aimez ce style de musique, rendez-vous jeudi prochain à 20h30 à l'Astrolab Grande Salle.
Tout ça, c'est les États-Unis, comme ça grouille. Ils ont des choses merveilleuses et parmi les choses merveilleuses, ils ont quand même un cinéma. Notamment, il y a le film de Ethan Coen qui vient de sortir.
Bon.
Je ne voudrais pas écorcher le nom, ça y est, je l'ai perdu. Drive Away Dolls.
Il paraît qu'il est très bon. J'ai vu que des.
Alors, c'est très marrant, je ne vous dis pas la fin, bien sûr, mais avec un Matt Damon. Et là aussi, on est en pleine élection et Matt Damon risque d'être finalement un élu très, très haut dans la hiérarchie politique américaine. Et donc, il se retrouve pris dans un truc avec deux filles. Cohen s'en donne à cœur joie pour montrer un peu toutes les hérésies qui elles sont armées, elles sont poursuivies par des gars armés et c'est du Cohen quoi, c'est très très cru.
Et c'est au carme.
Et c'est au carme. Allez-y.
Qu'on salue. Rien à rajouter, Victor.
Non, je voulais te souhaiter une bonne soirée. Merci de nous avoir invités.
Ah ben évidemment. Moi, on revient ici mardi dans 3 semaines maintenant, 3-4 semaines. Manu Digital, je vous disais donc, il y a juste avant le Covid, je crois, parce que ce morceau-là, je l'ai tellement écouté pendant le Covid, avec Flavia Coelho, la chanteuse brésilienne, faisait un hommage à Bob Marley. On va écouter quelques petites mesures avant Ride On. Ça s'appelle Tribute to Marley. Passez une belle soirée et à mardi prochain.